elle aussi, Cadenassi.
Bonsoir à tous, Élisée Roupati devant ce micro. Et comme tous les lundis, votre émission Sporama sur la Voix de l'Amérique de 19h à 19h30, temps universel, 30 minutes. Pour passer au crime, l'actualité sportive du week-end. Et comme d'habitude, nos consultants sont là pour vous éclairer. Je salue Amédine Sy qui est en direct avec nous depuis Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOAC.
Nous avons depuis Kinshasa en RDC, Valdo Simbo Yamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk à Casablanca au Maroc est aussi avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis dans ce studio avec moi, Lawal Dinkosoro, fidèle au poste. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
Dans la charpente de l'émission ce soir, le Cameroun abrite depuis ce week-end le championnat d'Afrique des Nations, la 6e édition. Et puis, la CAF a décidé de remettre l'organisation de la CAN féminine au Maroc. Enfin, le mondial senior de handball se déroule actuellement en Égypte avec un début mitigé des représentants africains. Bienvenue à tous. Le 6e championnat d'Afrique des Nations bat son plein au pays de Samuel Eto'o, une compétition réservée aux joueurs locaux évoluant dans le championnat de leur pays. Lawal, à la veille du coup d'envoi du tournoi, Issa Ayatou, ancien président de la CAF, a été intronisé président d'honneur de l'instance. On retrouve depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Juntap. Pour plus de précision,
le CHAN 2020 s'est ouvert en présence du président de la Fédération Internationale de Football Association, Gianni Infantino, a surtout assisté à la cérémonie au cours de laquelle Issa Ayatou a été fait à la veille du coup d'envoi du CHAN, président d'honneur de la CAF. Une occasion de réconciliation entre les deux hommes, je suis un homme fier et serein chez moi, a lancé Ayatou dans son discours. Un déclic dans une compétition où le pays organisateur ne fait pas d'office de favori. C'est ainsi que les supporters du Cameroun assimilent la victoire de leur équipe nationale à prime en match d'ouverture du CHAN 2020. Un déclic qui laisse encore certains sur leur faim.
Enfin, mais ça n'a pas donné, monsieur, ça n'a pas donné. Ils étaient pas posés, ils étaient pressés. Avec une équipe qui ne vient pas le championnat chez eux, et qu'au Cameroun, au moins le championnat, ça ne servait à rien. La vécu comme gagné.
Il y a encore beaucoup de bobos qu'il fallait qu'il faut voir dans cette équipe-là, surtout au niveau de l'attaque-là.
Un but à zéro en faveur du Cameroun face aux Warriors du Zimbabwe. Même résultat dans la confrontation ouest-africaine entre le Mali et le Burkina Faso. Malgré la défaite, Sédou Zerbo, l'entraîneur des étalons à prime, garde néanmoins l'espoir.
Je pense que c'est un championnat. Et il reste deux matchs à jouer. Je pense qu'on va tout faire pour partager ce qui s'est passé en 2018.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Voilà, c'est une prime à la reconnaissance.
Oui, Élisée, c'est une reconnaissance pour tout ce que Issa Ayatou a été pour le foot africain, pour avoir dirigé l'instance fêtière du foot et pour avoir compris qu'il fallait laisser la main aux jeunes pour la suite. Et si aujourd'hui, les mêmes à qui il a laissé la place trouvent qu'on devrait le faire président d'honneur, c'est un mérite, c'est une reconnaissance. Et il faut franchement reconnaître à cette équipe qui dirige aujourd'hui la CAF ce geste.
Au moment où la gestion du football africain pose problème.
La gestion pose toujours problème. Même sous Ayatou, les scandales ont plu, comme on a dû le constater. Mais aujourd'hui, c'est une première reconnaissance, vous l'avez dit. Et il est important à tous ceux qui viendront après de reconnaître à ceux qui sont passés avant eux leurs valeurs et s'ils ont vraiment été véritablement de toutes les batailles pour l'enracinement de l'instance.
Amédine, avec une préparation difficile entachée également par un problème de capitanat, le pays hôte, le Cameroun, s'est imposé difficilement face au Zimbabwe.
Tout à fait, Élisée, le Cameroun a bien entamé le 6e championnat d'Afrique réservé aux joueurs locaux en s'imposant devant le Zimbabwe sur le score 2-0 en match d'ouverture. Les Lions indomptables locaux du Cameroun, malgré une préparation très difficile, marquée par des défaites concédées devant le Niger et la Zambie et le problème de capitanat, ont fait l'essentiel grâce à un but dans Bongué, but marqué à la 72e minute. Mais il faut dire, Élisée, que l'équipe a maîtrisé ce match d'ouverture en s'installant dans la moitié du terrain des supérieurs et à force d'attaquer, les Lions indomptables locaux ont fini par marquer ce but précieux qui leur a permis de gagner ce match sur le score 2-0. Avec cette victoire, le Cameroun occupe la première place du groupe A en compagnie du Mali. Le Mali s'est imposé devant le Burkina sur le score 1-0. Élisée.
Valdo, le duel des deux Congos a tourné à l'avantage de la RDC qui a pris sa revanche. Mais que ce soit dur.
Élisée, dur, oui. Mais le plus important reste le résultat final qui tourne à l'avantage des RDC avec cette victoire d'un 1-0 sur le Congo-Brazzaville. Belle revanche prise par le Léopard et les RDC au terme d'un duel dont la première période a été décousue de part et d'autre avec quelques individualités qui se sont fait remarquer déjà, notamment Inonga Baka qui a d'ailleurs été élu homme du match pour un défenseur. Allez-y comprendre. Les RDC s'y est bien pris et dès le retour des vestiaires avec ses buts de Ushindi à la 47e minute et qui, du coup, a changé les visages de ces derbys du fleuve Congo. Avec un peu plus d'engagement des deux côtés, sans pour autant trouver la faille, les Léopards se sont également remis à leur gardien, Matan Pilei, auteur d'un arrêt décisif dans les ultimes minutes de cette opposition. Un but marqué, 3 points empochés, première place du groupe. Il n'y avait pas mieux pour démarrer cette compétition chez les Léopards de la RDC.
Merci Valdo. L'autre match du groupe a vu la Libye qui est présente au Cameroun après le forfait de la Tunisie concéder le nul 0-0 devant le Niger. On vient vers vous Amine. Le Maroc, champion en titre, a bien entamé cette compétition par une victoire face aux éperviers du Togo.
Succès important sur le plan comptable pour le Maroc, mais sans la manière face à la sélection du Togo. Une victoire qui s'est dessinée à la 25e minute suite à un pénalty transformé par le sociétaire du Wydad, Yahya Jebran. Mais dans l'ensemble, l'équipe du Maroc n'a pas été très convaincante face à un adversaire très bien regroupé. Les Togolais se sont bien défendus. Ils ont certes bénéficié de la maladresse des joueurs marocains, notamment en toute fin de rencontre. L'équipe du Maroc aurait pu à plusieurs reprises doubler la mise. Mais ce qui compte, c'est la victoire. Mais visiblement, l'élève Maroc 2021 peut beaucoup mieux faire. Il faudra que Hossein Amouta puisse se profiter de ces quelques joueurs à Douala pour travailler ses automatismes offensifs, notamment face à une sélection du Rwanda qui sera très ambitieuse. Le Maroc a démarré sa quête du titre petitement. Il va falloir monter en volume, monter en puissance, s'il veut conserver le sacre remporté à Casablanca il y a 3 ans.
Le second match de ce groupe Rwanda-Ouganda se joue actuellement toujours au stade de la réunification à Douala. A noter que les derniers matchs de cette première journée se jouent demain mardi dans le groupe D et à Limbé. La Zambie croisera la Tanzanie et la Guinée en découdra avec la Namibie. On parle à présent du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations de football des moins de 17 ans. Direction le Togo et à Médine. Après de nombreux scandales dus à la tricherie sur l'âge des joueurs, c'est finalement le Nigeria et la Côte d'Ivoire qui représenteront la zone B de l'UFOA au Maroc.
Oui, Élisée, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ces deux formations, ont validé le billet pour cette CAN des U17 lors d'un tournoi de qualification de la catégorie qui s'est déroulé au Togo. Mais il faut dire, Élisée, que cette compétition a été marquée par de nombreux scandales dus à la tricherie sur l'âge des joueurs. D'ailleurs, l'équipe du pays hôte, le Togo, a été disqualifiée par la Confédération africaine de football en raison d'un test IRM ayant relevé la fraude sur l'âge d'un joueur. Sachez enfin, Élisée, que le Nigeria et la Côte d'Ivoire vont rejoindre le Maroc pays hôte, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie.
Justement, Valdo, il est inadmissible de voir que l'Afrique est toujours à l'étape de la triche sur l'âge des joueurs de catégorie d'âge.
Élisée, c'est un vrai problème sur le continent que certains pays ont du mal à élaguer malgré l'évolution des méthodes de contrôle sur les âges des joueurs au niveau des sélections d'âge, parce qu'il y a certaines léthargies au niveau de certaines fédérations qui devaient servir de policiers, s'il faut que je le dise ainsi, et mettre out les joueurs non éligibles pour telle ou telle autre catégorie. Malheureusement, que celles-ci y participent de quelque manière qu'ils s'assoient et les conséquences pèsent sur leurs pays respectifs. La RDC a connu un caparé au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques, une qualification au prochain tour obtenue sur le Maroc, mais rattrapée à cause d'un joueur qui avait dépassé l'âge. Donc allez-y comprendre. Cette triche est devenue systématique, pas qu'au niveau du football, hein, même avec d'autres disciplines. Que faire? Je pense qu'il faudra renforcer davantage les sanctions, parce qu'aujourd'hui, même certains parents y participent.
Lawal. Ce fut un apprentissage difficile pour les cadets béninois qui, en trois matchs, ont encaissé 11 buts.
Apprentissage douloureux, je vais dire. Mais ça se comprend. Les gens n'ont pas eu de compétition dans les jambes, l'organisation a été catastrophique et tout ce qui a suivi n'a pas pu véritablement faire honneur au foot béninois, malheureusement.
La bonne note, c'est de vrais cadets qui ont été sélectionnés, des oui. joueurs qui ont pratiquement 15-16 ans.
Oui, c'est la bonne note, c'est vrai, quand on se réfère un peu à la triche togolaise et tout le reste. Mais il faut voir la qualité du jeu produit par les Béninois. Ils ont été carrément absents pendant toute la compétition. C'est vrai qu'on me dit qu'ils ont pu sauver l'honneur en réussissant à marquer un but au moins. Mais encaisser 11 buts en 3 matchs, le ratio, ça fait pratiquement 4 buts par match. C'est catastrophique. Pour une équipe, c'est une catastrophe. Donc, les dirigeants qui sont allés au Togo se balader avec l'équipe doivent pouvoir rendre des comptes et nous dire comment, et dire aux Béninois, j'allais dire comment ils ont pu coacher cette équipe pour revenir avec un résultat aussi minable.
L'autre chose, une génération est née. On doit pouvoir la retrouver 3 ans plus tard au niveau des juniors.
Oui, Élisée, ce qui est malheureux au Bénin, la génération est bel et bien née, mais le suivi pose toujours problème. On a eu en 2005 une génération de juniors, mais la suite, on la connaît. Ce qui s'est passé avec les juniors de 2005 qui sont allés jusqu'à la Coupe du Monde, combien on a pu retrouver parmi les seniors? On n'a pas le suivi qu'il faut
au niveau Bénin. Dans les meilleurs championnats.
Il n'y a pas le niveau qu'il faut, le suivi qu'il faut au Bénin, et c'est bien triste. On espère que, avec les différentes réformes annoncées au Bénin, on espère que le suivi va être différent de ce qu'on a pu avoir par le passé.
La prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football se déroulera au Maroc. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. Elle pourrait être qualificative pour la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande. Cette CAN avait été annulée faute de pays hôtes et à cause de la pandémie de coronavirus. Alors, Amine Birouk, bonne nouvelle pour le royaume chérifien qui mise sur le foot au féminin.
Le Maroc aussi à l'honneur avec ce privilège d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2022. Il faut dire que le Royaume a fait beaucoup d'efforts pour la promotion du football féminin au cours des dernières années. Et surtout, depuis cette saison 2020-2021, il y a l'instauration d'une ligue de football professionnel féminine. La fédération a fait beaucoup d'efforts. Elle rémunère les joueuses, les coachs, les assistants et assistantes jusqu'aux catégories U17 et U20 avec un barème qui a été fixé directement par la fédération. Les joueuses sont payées directement, leurs comptes reçoivent des virements mensuels. Et puis, dernière cerise sur le gâteau, aujourd'hui, les équipes disposent d'autobus payés par la fédération pour permettre les déplacements. Aujourd'hui, les joueuses sont dans un confort relatif. Et aujourd'hui, cette édition qui se déroulera devra être la plus aboutie. Le Royaume dispose d'infrastructures et ce sera l'occasion, bien évidemment, de voir les forces vives du football féminin en Afrique. Autant dire que ce sera une opportunité unique de donner un coup de boost au football féminin, à sa pratique sur notre continent.
Amédine, enfin un pays pour organiser la CAN féminine.
Oui, Élisée, la Confédération africaine de football a trouvé enfin un pays qui va organiser la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ce sera au Maroc en 2022, Élisée. Les responsables du football africain ont dû pousser un ouf de soulagement car l'annulation de l'organisation de cette Coupe d'Afrique réservée aux dames en 2020, faute de pays hôtes, avait fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je pense qu'un pays comme le Maroc a des moyens d'organiser cette grande messe du football continental version dames, mais ce sera aussi une aubaine pour la sélection marocaine d'aller un peu loin dans cette compétition car le fait d'organiser un tournant où le fait de jouer à domicile constitue un avantage. Retenez, Élisée, enfin, que les Lions de l'Atlas n'ont jamais réussi à franchir le cap du premier tour car elles ont été toujours éliminées en phase de groupe. C'était le cas en 98 et en 2000. Peut-être cette fois-ci sera la bonne, Élisée.
Valdo, la CAF vient de prendre une décision forte concernant le foot féminin.
Forte décision, je ne pense pas.
Élysée, elle va peut-être bien se rattraper avec cette nouvelle orientation de faire jouer cette Coupe d'Afrique et des Nations d'âme. Nous n'allons quand même pas oublier que c'est sous une forte pression de la FIFA que la CAF a dû se rétracter pour faire jouer cette compétition quand on sait combien il y a comme financement et plan d'action pour le développement du football féminin sur le continent. Il faudra maintenant voir comment est-ce que la Confédération africaine de football avec son nouveau président vont s'y mettre afin d'organiser cette compétition, puisque Infantino, pour ne pas dire la Fédération internationale de football association, ne veut rien lâcher en Afrique, pourvu que la pandémie ne s'y mêle pas, parce que cette deuxième vague qui sévit le monde est annoncée être plus dangereuse que la première, et qu'autant le football masculin est en train de résister, que les dames puissent marcher également sur ses pas.
On revient vers vous, Amine. L'organisation de cette CAN s'inscrit dans la stratégie de promotion du foot au féminin initiée par le Maroc ces dernières années. Stratégie qui a conduit notamment au recrutement de l'entraîneur français Renat Pedros.
On peut parler de cerise sur le gâteau, puisqu'après le recrutement de l'américain l'INSEE, qui devait aider à la généralisation de la pratique du football féminin au Maroc, au niveau des équipes nationales, il y a une stratégie beaucoup plus offensive, puisque l'ex-coach de l'Olympique Lyonnais, multiple vainqueur des compétitions européennes, notamment de la Champions League, Renat Pedros, vient d'être recruté pour chapeauter tout l'organigramme des équipes nationales et s'occuper directement de la sélection féminine. Aujourd'hui, le Maroc se dote d'ambition pour revenir au premier plan sur le plan continental. On se rappelle d'une sélection nationale en 97, 99 et 2001 qui avait participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis lors, il y a eu une éclipse assez étonnante, au point où l'Algérie et la Tunisie dominaient dans la région du Maghreb. Le Maroc veut dominer sur le plan régional et puis revenir petit à petit sur le plan continental pour concurrencer des sélections du calibre de l'Afrique du Sud, du Nigeria et du Cameroun.
On enchaîne avec du handball, le championnat du monde masculin. Le premier avec 32 équipes se joue actuellement en Égypte jusqu'au 31 janvier prochain. Une compétition qui se dispute sans public en raison de la pandémie de coronavirus. L'Afrique est représentée par l'Égypte, l'Algérie, l'Angola, le Cap-Vert, le Maroc, la RD Congo et la Tunisie. Amine Birouk, les pharaons ont bien entamé leur compétition. Le duel maghrébin entre le Maroc et l'Algérie a tenu toutes ses promesses.
Démarrage donc de cette Coupe du Monde de handball, les pharaons sont favoris chez eux, en tout cas ils ont la possibilité de passer le premier tour, leur première victoire contre le Chili a été probante. Le duel entre le Maroc et l'Algérie a tenu toutes ses promesses avec un match à multiples rebondissements. Les Marocains ont cru réaliser la surprise, eux qui n'avaient battu l'Algérie qu'une seule fois lors de leurs multiples confrontations. Ils ont mené par 15-8 à la mi-temps avant de s'effondrer de manière très curieuse en deuxième période, 24-23. Ça donne une opportunité aux Algériens de passer à la seconde phase de la compétition. On attend aussi de bonnes prestations de la Tunisie. Les Tunisiens ont tenu la dragée haute mais se sont inclinés face à la Pologne. Et puis, que dire des prestations des autres sélections africaines, à savoir l'Angola, la République démocratique du Congo et du Cap-Vert. Toutes ces sélections sont là pour apprendre. Elles devraient être logiquement reversées dans la Coupe du Président, qui est une sorte de lot de consolation dans cette Coupe du Monde.
Baldo, apprentissage difficile pour la RDC. L'Argentine a été plus forte.
Élysée, pour une première participation à une phase finale de la Coupe du Monde, ça s'annonce plutôt très prometteur pour les Léopards handball messieurs de la RDC dans cette compétition. Quoique battu lors de deux premières sorties dans cette compétition, l'expérience argentine a dû peser dans la balance en premier match, puisque mené à la mi-temps, 14-13, les Argentins se sont bien repris en seconde période pour l'emporter 28-22. Face aux champions en titre, les Léopards ont subi la loi du plus fort, puisqu'ils dominaient de bout en bout, 23-10 à la mi-temps et puis 39-19, soit 20 buts d'écart. Les Danemark l'ont emporté au coup de sifflet final. Il va falloir maintenant jouer le tout pour le tout face au Bahreïn en dernier match de ses premiers tours, puisqu'en cas de victoire, c'est une place au second tour qui sera assurée pour la République démocratique du Congo.
Lawal, moment rêvé pour l'Afrique de faire forte sensation à domicile avec la victoire finale.
Oui, moment rêvé pour les Africains, mais au regard des premières rencontres, on a bien compris que en dehors de l'Égypte et du duel entre Marocains et Algériens, on voit que les autres équipes sont carrément à la traîne. On espère qu'elles vont se réveiller, ces équipes-là, pour véritablement montrer que l'Afrique a encore du talent à revendre en matière de handball.
Est-ce qu'on pourra espérer une équipe africaine aller jusqu'en finale, vu leur prestation?
Oui, on espère que c'est au niveau du hand, abriter d'abord le championnat du monde, mais quand on regarde un peu là, la Norvège, même si elle est battue en match d'ouverture par la France et tout le reste, les grands de ce monde sont là. Est-ce que les Africains sont suffisamment préparés pour la victoire finale? Attendons de voir jusqu'au 31 janvier ce qui pourra se passer.